Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean Roulet.
Bonjour, bienvenue sur l'antenne de Canal Académie. Cette émission est consacrée à la première partie du livre de Luc Ferry et Jean-Didier Vincent, intitulé « Qu'est-ce que l'homme ?» et publié en 2010 aux éditions Odile Jacob. Longtemps livré à la seule réflexion philosophique, la question de l'homme est aujourd'hui un objet de science. Une science qui bouscule chaque jour nos repères et qui, non sans quelques raisons, s'invite sur le territoire de la philosophie. Science et philosophie, deux disciplines donc, pour un même enjeu de réflexion, l'homme. Alors, moins que jamais, la science et la philosophie n'ont-elles le droit de s'ignorer. Pour permettre un dialogue fertile entre savoir scientifique et pensée philosophique, le philosophe et le biologiste exposent tour à tour les fondamentaux de leurs disciplines respectives. Canal Académie vous présente leur ouvrage en deux volets. Cette première émission est consacrée à la contribution de Luc Ferry, Initiation à la philosophie. Celle de Jean-Didier Vincent, Initiation à la biologie, fera l'objet d'une prochaine émission. Sommes-nous des êtres libres, comme ont pu le prétendre les religions et tout un courant philosophique, ou bien sommes-nous le jeu d'un déterminisme, celui d'un engrenage historique, d'une condition sociale, d'un milieu familial, ou encore, prise de conscience plus récente, celui de notre nature biologique? Car après tout, nous appartenons au règne animal. Biologiquement, aucune discontinuité fondamentale ne nous en distingue. Rien d'autre que des caractéristiques particulières comme en possède chaque espèce. Dès lors, le sentiment de liberté ne serait-il pas qu'une simple illusion, une ignorance des lois qui nous régissent, trop complexe pour que nous en ayons conscience? Philosophe de la liberté, Luc Ferry se refuse à cette conception matérialiste de l'homme. Il entend distinguer biologie et biologisme. Comme toutes les sciences, la biologie recherche dans le domaine qui est le sien la raison naturelle des choses, et cela en parfaite légitimité avec le rationalisme qui prévaut depuis Descartes. Mais, par une insensible dérive, cette démarche tend à légitimer une posture scientiste, c'est-à-dire un dogmatisme qui refuse à l'homme toute spécificité, toute discontinuité philosophique avec l'animal. Luc Ferry affirme qu'il est possible de prendre en compte les avancées réelles, c'est-à-dire authentiquement scientifiques, de la biologie, sans pour autant céder à cette déviation idéologique qu'est le biologisme. Un chemin difficile, car il expose à un double écueil. Ou bien ignorer certaines découvertes au nom d'une frilosité bien pensante, ou bien négliger la spécificité de l'homme par une adhésion trop intégriste au constat scientifique. Poser la question de l'homme, c'est s'interroger sur sa différence avec l'animal, sur cette faculté propre à l'homme de pouvoir s'écarter du code de la nature, se perfectionner. Rousseau fut l'un des premiers à l'avoir ainsi formulé, nous dit Luc Ferry. L'homme n'est pas prisonnier de ses instincts. Il s'en arrache par une dimension que les philosophes de la liberté désignent comme sa transcendance. Elle implique une distance par rapport au réel, un recul nécessaire pour en juger, pour porter sur lui des jugements de valeur, distinguer les notions de bien et de mal, faire de l'homme un être de morale et de culture. Cette dimension se surimpose à la continuité biologique entre le monde animal et le monde humain, continuité dont se satisfait l'approche matérialiste. Luc Ferry entend rappeler combien morale, mérite et liberté sont des notions indissociables. Il oppose le vieux monde aristocratique à notre monde démocratique. Le travail n'est plus une servitude, il est devenu valeur. Vertu et mérite ont changé de définition. Le mérite ne désigne plus les qualités naturelles. Une morale du mérite implique l'observance du devoir et non la seule recherche égoïste de l'utile. Dépasser le simple égoïsme requiert un effort, s'accompagne d'une tension. Là est le mérite. Dans le consentement à cet effort, là est l'exercice de la liberté, agir au-delà des intérêts naturels. Elle s'exprime par le travail, par quoi, en transformant le monde, l'homme se transforme. La morale du mérite marque un nouvel ordre social, porteur de l'idéal démocratique, note Luc Ferry. Elle se situe aux antipodes de l'aristocratisme ancien, mais aussi d'un biologisme qui ferait de l'homme le prisonnier des lois naturelles, de leur déterminisme. Luc Ferry nous accompagne à travers les grands courants philosophiques ayant marqué l'histoire de la pensée moderne. Il accorde une attention particulière aux conceptions de Kant et à sa théorie du schématisme. Remplaçant la contemplation des idées chères à Descartes, la pensée devient elle-même un travail de l'esprit. Plus de vérités qui s'imposeraient a priori par leur évidence, tout est construit à partir de schèmes universels. Tel que proposé par Kant, le concept permet de passer de l'abstrait au concret, de l'universel dont tout dérive au particulier que nous pouvons appréhender. Image exemplaire, celle du triangle. À partir d'une règle universelle de construction, il est possible de la concrétiser en une infinité de formes triangulaires. Ainsi, la règle est-elle rendue sensible ? Tout ce qui échappe à cette possibilité d'être rendu sensible relève du discours métaphysique. Exemple, la liberté, mais aussi le déterminisme. On en revient à l'épineuse question qui les oppose, une question totalement absente de la pensée grecque. D'où a-t-elle surgi ? De la révolution rationaliste que nous devons à Descartes. Il a fallu la réflexion de Descartes pour que soient dépassées les conceptions animistes d'un Moyen-Âge qui peuplait l'univers de forces obscures. La révolution cartésienne leur a substitué le principe de causalité. En bref, rien ne change sans raison. Tout changement relève d'une cause extérieure. Sans cette cause, les choses demeurent en l'état, l'inertie prévaut. Ce qui pour nous va de soi constitue à l'époque un véritable séisme. Un principe qui ouvrait tout grand les portes de la science à qui revient de déterminer les causes naturelles. Mais si c'est la loi naturelle qui régit, si l'homme n'a aucun contrôle sur les mécanismes dont il est le siège, qu'en est-il de sa liberté, de sa responsabilité ? Que reste-t-il d'une éthique fondée sur un devoir de choisir entre le bien et le mal ? Et peut-on se dispenser de ces notions pour construire une éthique normative ? L'utilitarisme anglo-saxon et le matérialisme biologique se sont retrouvés dans le même rejet des éthiques normatives et des philosophies de la liberté. Luc Ferry nous rapporte comment s'est conclue leur coalition pour concevoir une éthique évolutionniste d'inspiration néo-darwinienne. Le contenu altruiste de cette morale se réclame de la sélection naturelle. Privilégiant les traits les mieux adaptés à la survie de notre espèce, la nature aurait filtré le meilleur de nos câblages. Elle aurait formater nos instincts au mieux du bien commun. Fruit naturel de l'évolution, l'éthique évolutionniste a donc pu se parer d'une légitimité scientifique. Luc Ferry trouve plutôt naïve cette référence optimiste à une bonne nature. Elle découle manifestement d'observations biaisées. Il y voit un parti pris romantique également présent dans une certaine forme d'écologie. Et même, dans l'hypothèse d'une bonne nature, Luc Ferry rappelle qu'un fait naturel ne saurait fonder le droit dont se réclame une éthique normative. Au nom de quel principe ce qui est coïnciderait-il avec ce qui doit être ? Ayant soutenu que le matérialisme était incompatible avec l'idée d'une éthique normative, Luc Ferry rappelle que le déterminisme n'est nullement une position scientifique, mais un parti pris métaphysique. Le déterminisme part du principe que toute manifestation naturelle relève d'une cause elle aussi naturelle, mais cette cause étant elle-même l'effet d'une autre cause. On peut remonter l'enchaînement sans jamais rencontrer une cause qui se suffise à elle-même et d'où puisse partir une démonstration du déterminisme. Tout aussi indémontrable est la liberté, car derrière mon libre arbitre planera toujours le soupçon d'une motivation qui m'échappe. Et cependant, renoncer au déterminisme est la science la plus qu'à fermer boutique. Renoncer à la liberté, et voyez ce qu'il reste de l'homme. D'où l'attitude de Luc Ferry. Il ne nous dit pas « je prouve la liberté », il nous dit « je fais le pari de la liberté », tout comme le scientifique fait celui du déterminisme, tout comme le croyant fait le pari de Dieu. Autant d'attitudes métaphysiques auxquelles nous pouvons consentir à des titres divers. Exigence humaniste pour la liberté, exigence épistémologique pour le déterminisme, exigence de la foi pour l'existence de Dieu. Des logiques différentes et nullement opposables. Voilà donc la réponse du philosophe à la question de l'homme. L'homme, un animal capable de prendre une distance par rapport au réel. Le recul nécessaire pour porter sur ce réel des jugements de valeur. L'homme, un être ayant la faculté de se déterminer en fonction de tels jugements. Cette faculté, il la nomme liberté. Elle le distingue des autres espèces biologiques. Entre l'animalité et l'humanité, par où passe la frontière? Question que se posera Jean-Didier Vincent. Question, dit Luc Ferry, que le philosophe doit aborder en toute humilité face aux observations du scientifique, mais ne céder en rien de ses convictions quant à une discontinuité de nature. Fût-il handicapé mental profond, l'homme demeure un homme, tout comme le plus évolué des bonobos demeure un animal, pour qui, souligne Luc Ferry, la nature et non la culture dicte la quasi-totalité de ses comportements. Fonder la nature humaine sur sa qualité d'être libre est un héritage des Lumières nullement dépassé. Il est aujourd'hui avalisé par des philosophies modernes telles que la phénoménologie et l'existentialisme. C'est pour Luc Ferry l'occasion d'esquisser la philosophie existentialiste et d'en éclairer les points forts. Montrer notamment que l'universalisme de la nature humaine fait voler en éclats les approches sexistes, racistes, à quoi certains cherchent à la soumettre. Luc Ferry évoque la figure de Jean-Paul Sartre en but à ces nouvelles façons de nier la liberté, de classer les humains dans des catégories qui les détermineraient. À titre d'exemple, sont cités en vrac la femme, le juif, l'arabe, le garçon de café, le bon père de famille ou le savant Cosinus. Tout ce qui finit par faire de vous ce qui n'est en réalité que le regard des autres, une façon de vous faire consentir à votre situation. Alors que l'existentialisme entend placer l'homme au-dessus de toute appartenance à une communauté sexuelle, éthique, nationale, linguistique ou culturelle. Qu'il refuse de réduire l'homme à quelque enracinement, de le soumettre à quelque déterminisme historique ou biologique. Par son sexe, par sa nation, sa famille, l'homme est en situation, c'est un fait. Mais il ne saurait se réduire ni à sa libido, ni à son histoire, ni à sa nature. Entre science et métaphysique, le rôle de la philosophie est précisément de clarifier les discours, nous dit Luc Ferry, de séparer les différents domaines de l'activité intellectuelle, d'en définir la légitimité, d'en fixer les limites. Et déjà de distinguer les fausses sciences qui se parent du prestige de la vraie. Luc Ferry en réfère pour cela aux critères énoncés par Popper. Une loi peut avoir été constatée 1000 fois, elle sera considérée non pour certaines, mais pour scientifiques selon Popper, si l'on peut concevoir une circonstance qui l'invaliderait. La loi est alors dite falsifiable. Elle peut prendre le statut de loi scientifique. Un énoncé non scientifique parce que non falsifiable n'est pas pour autant à rejeter. Ainsi, de la psychanalyse, proposée comme une psychologie des profondeurs, ainsi de Nietzsche, ainsi de Marx, qui propose des modèles parmi les plus intelligents de la sociobiologie. Les fausses sciences, qu'une souplesse de discours immunise contre toute réfutation, peuvent être pleines de vérité. Mais que la liberté soit remise en question au nom de la science, par des disciplines qui, philosophiquement, ne sont pas fondées à s'en réclamer, voilà ce que le philosophe, voilà ce que Luc Ferry, supporte mal. Citons-le. Malgré leur prétention à s'affranchir de toute forme de religion, le biologisme, mais aussi les interprétations dogmatiques de la psychanalyse et du marxisme, apparaissent à cet égard comme les nouvelles théologies de notre temps. Luc Ferry va revenir sur la difficile approche de Kant, dont il entend rappeler quelques principes philosophiques. Tout d'abord, sans l'intuition sensible, un concept reste vide. On ne peut déduire du concret à partir de l'abstrait. Autrement dit, conclure à l'existence à partir de la pensée est une démarche vouée à l'échec. L'existence matérielle n'est ni réductible à la pensée, ni déductible d'elle. Quand je définirai Dieu comme un être ayant toutes les qualités, je ne pourrai conclure à son existence au prétexte qu'elle serait l'une de ses qualités. Kant réfute ainsi l'argument ontologique de Descartes. Au sens de Descartes, l'idée métaphysique, l'idée avec une majuscule, prétend connaître l'existence individuelle, se passer de la perception sensible pour accéder à la connaissance. Prétention semble-t-il absurde que d'accéder au réel par la seule force de la raison. Elle ne peut avoir de sens qu'au regard de Dieu pour les croyants, ou alors pour les matérialistes, dans le cas d'une science achevée, une science devenue omniscience, qui ferait du réel une vérité rationnelle. Ayant remonté de cause en cause, de raison en raison, on aboutirait à un système confondu avec l'idée cartésienne. Il serait, note Luc Ferry, non représentable bien que schématisable. Alors, peut-être en s'approchant tout près, pourrions-nous y discerner la signature de Dieu. En tout cas, les rationalistes ne sauraient en prendre ombrage car, nous dit Luc Ferry, ce système établirait la rationalité du monde. En dehors de ce rêve et dans les limites de notre perception sensible réduite au temps et à l'espace, Luc Ferry constate que la métaphysique est bien le contraire de la science. Sa déviation la plus funeste est néanmoins, comme on le voit avec le biologisme, sa tentation la plus constante. Et c'est pour s'opposer à cette erreur que Luc Ferry a tenu à s'attarder sur la pensée de Kant. L'homme ne doit céder en rien à la tentation d'un scientisme qui dénie sa liberté. Ayant fait la part philosophique de sa différence avec l'animal, il doit se mettre à l'écoute de la vraie science, recueillir son avis sur ce qui sépare l'homme de l'animal. Ce sera dans une prochaine émission à Jean-Didier Vincent de nous en parler, en biologiste cette fois, et de s'interroger à ce titre sur la question de l'homme. Merci de votre écoute. Et à bientôt sur l'antenne de Canal Académie.